Donc je vous présente Monsieur Didier Sicard, qui est professeur de médecine interne, chef du service de médecine interne de l'hôpital Cochin et président du comité consultatif national d'éthique. Il est par ailleurs membre du conseil scientifique de l'Agence nationale de la recherche sur le sida. Et depuis 1998, il est membre du comité national des états généraux de la santé, responsable du thème « Soins palliatifs et douleurs ». Voilà, je lui laisse la parole. Merci.
Le médecin et ses malades, on aurait pu dire aussi le malade et ses médecins. Les médecins peuvent d'ailleurs être malades, et c'est le lot de l'humanité d'être confronté à cette relation un jour. Nous sommes en effet à une étrange période, dans cette période entre la médecine du XXe siècle et un pied dans celle du XXIe. Alors, la médecine du XXe siècle, vous avez eu depuis plusieurs semaines des conférences sur les progrès cognitifs et thérapeutiques plus impressionnants les uns que les autres, mais qui sont en même temps source d'une déshumanisation croissante de la médecine. Et je suis frappé de voir comment l'aube de ce siècle a fait basculer la médecine du corps dans une médecine moléculaire et de plus en plus technique et divinatoire, qui fait prendre conscience de l'abîme considérable qui peut exister entre la recherche scientifique médicale et une plainte, notre plainte. Tentons d'y voir plus clair et je vais aborder 5 ou 6 points les plus concrets possibles. Quel est le corps contemporain que rencontre en effet le clinicien? Il y a un livre de Jean-Luc Nancy, du philosophe, il y a quelques semaines qui est sorti, qui s'appelle « L'intrus ». Il avait subi une grève du cœur et il disait « Un jeu de plus en plus étroitement serré dans un créneau de paramètres et possibilités techniques. Un corps, notre corps, produit par la science et la technique, alors que ce corps continue d'exister, de souffrir, de jouir, d'éprouver, comme s'il y avait un corps intime, celui que chacun de nous connaît, et puis un corps médicalisé, extériorisé. Et ce corps qui parle le fait de plus en plus étrangement et de façon de plus en plus équivoque, soit parce qu'il parle de lui en termes apparemment confus, et donc de plus en plus mal accueilli par la médecine, bouffée de chaleur, je dors mal, des vertiges, j'ai pas faim, j'ai trop faim, soit parce qu'il va parler de lui en termes pseudo-objectif, encore éclaté, encore mime de la science. Et c'est ainsi qu'on est frappé de voir que les malades contemporains parlent de leur corps en termes de mon scanner, et non pas mon cerveau, mon échographie hépatique, et non plus mon foie, ma mammographie, et non plus mes seins, mon cholestérol, et non plus ma façon de me nourrir, ou mes habitudes de vie, bref, mon Doppler des jambes et non plus les jambes qui gonflent. Parce que l'imagerie et la biologie contemporaine n'offrent, dans ce premier cas où on parle d'insomnie, de bouffée de chaleur, de flatulence, qu'une réponse extrêmement décevante à une plainte qui est considérée comme confuse et d'autant plus décevante que la plainte somatique, autrement dit, quand on donne au médecin des symptômes très concrets, c'est dans l'objectif d'être mieux entendu par son médecin que la souffrance psychique, au sens « je ne vais pas très très bien ». Et dans le deuxième cas, lorsque l'on parle dans son PSA pour la prostate ou ma mammographie pour le sein, le malade va être piégé dans un imaginaire de plus en plus mécaniste et instrumenté. Et les exemples sont nombreux. Donc, comme je le disais dans la première situation, fatigue, vertige, flatulence, gargouillement, mal à l'estomac, c'est inaccessible aux chiffres et aux images. Car la vraie nature du corps, sa dimension physique irréductible à l'organique, est au fond exclut de la connaissance scientifique. Et c'est cette béance qui crée le problème. En effet, le renvoi à la sphère psychique de la dépression cachée qui se manifesterait par des symptômes dits somatiques est le plus souvent jugé comme insupportable et dévalorisant. Qui n'a pas fait l'expérience de se faire renvoyer par son médecin ? C'est dans votre tête, c'est imaginaire, il n'y a rien. Et les mots eux-mêmes sont valorisants ou dévalorisants. Dans les années 50, quand on n'allait pas très bien, on disait qu'on était neurasthénique. Si on dit qu'on est neurasthénique, c'est dévalorisant. Maintenant, il est effectivement plus valorisant que les mots soient spasmophilie, fibromyalgie, qui ont une sorte de connotation pseudo-scientifique et qui finissent par donner une légitimité à sa souffrance. Alors, donc c'est le premier cas. La médecine ne peut pas accueillir, au fond, la souffrance quotidienne de chacun d'entre nous. Dans le deuxième cas, l'imagerie a fini par donner son empreinte aux symptômes. Et on est frappé de voir, par exemple, qu'un certain nombre de scanners chez des sujets qui ont plus de 60, 70 ans montrent atrophie cérébrale. Quand le malade lit son compte-rendu qu'il a le cerveau atrophié, c'est insupportable, et c'est tellement insupportable que s'il l'avait consulté parce qu'il est mal à la tête et qu'il se retrouve avec un cerveau atrophique, il a perdu confiance en lui, et les mots eux-mêmes ont fini par inscrire une réalité qui se superpose au vécu quotidien. Et donc, c'est assez bouleversant. Quand c'est moins bouleversant, il y a des mots, par exemple, épine calcanéenne. On a mal au pied. La radio montre une épine calcanéenne, au sens une épine de 1 cm. Et le malade qui voit épine calcanéenne ne peut plus marcher parce qu'il a l'impression, effectivement, qu'il marche sur une épine. Il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir une épine radiologique, même s'il n'y a généralement aucun rapport entre la douleur du pied et la présence de cette épine. Vous allez subir une échographie du foie parce que, pour de tas de raisons, et vous ressortez avec le mot « kyste du foie » ou « kyste du rein ». Et ces mots « kyste », la médecine, quelquefois, leur a donné une connotation un petit peu inquiétante. Et au fond, ces kystes vont finir par, alors qu'ils ne sont quasiment, absolument pas responsables de pathologie, ils vont entraîner une souffrance qui va être liée donc à cette mise à distance du corps. Alors tout ça serait de l'ordre de la relation, n'aurait pas grande importance. Si, et c'est ce que j'observe depuis quelques années, la perte de confiance des sujets, des personnes qui existent actuellement, dans leurs symptômes et dans l'examen clinique d'un médecin, ne finissait pas par transformer l'acte médical en une succession d'investigations qui sont parfois extrêmement utiles, personne n'en doutera, mais bien souvent dénuées du moindre intérêt. Avoir les jambes qui gonflent pendant le cycle menstruel ou à la fin d'une journée un peu fatigante où on est resté debout et demander un examen Doppler pour voir sa circulation. Ou avoir l'intestin qui fait des nœuds, qui flatule, qui gargouille, bref, quelquefois extrêmement désagréable et peut tout à fait gêner la vie. Et on se dit, cet intestin ne peut pas gargouiller, flatuler sans qu'il y ait une raison, je voudrais voir, faites-moi une coloscopie. Pour savoir éventuellement s'il n'y a pas un cancer ou un polype qui pourrait expliquer ces symptômes. Il y a donc une sorte de report de la technologie, sur la technologie médicale d'une demande de vérité du corps, comme si la vérité du Doppler, la vérité de l'échographie, la vérité de la coloscopie était la seule qui puisse rassurer. Et donc, il y a progressivement une confusion qui s'installe entre une médecine de dépistage parfois très utile, et on sait très bien que surveiller sa tension artérielle, surveiller son sucre dans le sang, surveiller si on n'a pas une hépatite C ou, dans des cas d'exposition à un risque sexuel, une infection par le virus VIH, sont extrêmement utiles, et il est très important que la médecine continue de se préoccuper du dépistage. Mais chercher dans une médecine d'image, qu'elle soit IRM, échographie, scanner ou coloscopie, en l'absence de signes d'orientation qui aient un sens, est un peu vain. Alors, on vous dit toujours, ah oui, mais je connais quelqu'un, il a été voir un médecin et il a demandé une échographie abdominale parce qu'il avait mal au ventre et on lui a découvert par hasard un petit cancer du rein et ainsi on a pu le sauver. Et donc, la question peut se poser s'il faut demander à l'humanité de passer sans cesse des examens pour calmer l'anxiété légitime de la vie. Ou alors si on demande à l'humanité de le faire. Je crois qu'alors il faut investir dans une consommation médicale illimitée, considérable, parce que le lendemain d'une échographie normale, elle pourra être pathologique. Autrement dit, un malade a mal à la tête, des migraines et n'en peut plus de vivre sans scanner, il fait un scanner le 27 mars. Il est évident que les symptômes durant au mois d'octobre, la revendication d'un tel examen de nouveau sollicité sera demandée. Et donc je crois qu'il faudrait à ce moment-là que l'ensemble de l'humanité passe des échographies trimestrielles pour éventuellement savoir si à l'intérieur du corps, il n'y a pas un vice caché. Ainsi, on exprime sa souffrance en termes techniques et non plus en termes de vécu. Sinon, on n'est pas entendu. Et la confiance dans son propre corps, dans ce que l'on éprouve, est reportée de façon à peu près totale sur les examens. Le sommet était peut-être ce qu'on appelle le check-up. Le check-up, comme si l'assimilation à une voiture, 10 000 km ou 40 000 km, 40 ans, je veux un check-up et je veux qu'il soit complet. Je veux qu'on aille jusqu'à la biologie moléculaire, je veux qu'on regarde tout, car je veux être rassuré pour poursuivre ma vie. Alors qu'en fait, le check-up n'a jamais démontré la moindre efficacité, la moindre utilité, et il exprime plutôt une perte de confiance dans son moi intime et un transfert excessif sur une médecine technique. Alors que même, on peut aboutir au contraire, c'est-à-dire qu'un sujet a une douleur dans la poitrine, inquiétante, il va voir un médecin, l'électrocardiogramme est normal, il est rassuré par la technique, une heure après, il fait un infarctus massif. Autrement dit, le corps doit rester, et je pense qu'il y a toute une culture de transfert excessif du corps sur la technique. C'était le premier point. La deuxième ambiguïté, c'est l'illusion que c'est la médecine qui crée la santé. Alors, on peut paraître un peu provocant en disant ça. Il est évident que la médecine y a contribué. Ce serait un lieu commun de parler des progrès fabuleux en matière d'antibiotiques, de chimiothérapie, de chirurgie de plus en plus complexe, de greffes, la cortisone. Bref, c'est un lieu commun et j'y insisterai pas. Mais je suis frappé de voir comment la médecine a fini par s'installer au cœur de nos préoccupations comme une fin en soi, et non comme un moyen d'assumer sa vie. Avoir, acquérir ou maintenir une bonne santé est devenu un objectif d'appropriation, alors que être en bonne santé, le demeurer, respecter son corps, sont autant de conceptions désuètes passées. Comme si, au fond, chaque personne était réductible par l'évaluation de sa qualité de vie, de ses normes paramétriques, de son chiffre de cholestérol ou de PSA, à des rapports de production, à des rapports économiques. Et on est frappé d'ailleurs de voir comment, depuis quelques années, et ce sera à mon avis dans le futur considérable, la médecine s'intéresse de façon croissante à adapter la personne à son travail par la recherche des meilleurs profils génétiques pour obtenir une meilleure rentabilité. On voit très très bien que dans un certain nombre de médecines du travail, plutôt que de s'occuper de l'environnement polluant, on va essayer de voir quels seraient ceux qui seraient les plus résistants à telle pollution, ou au contraire ceux qui seraient les plus sensibles. Ceci intervient et signifie que la médecine donc intervient dans le champ de la productivité du corps à une demande économique. Or, ce qui change, et nous partageons tous cette expérience, dans le fait d'être en bonne santé, c'est beaucoup plus les bonnes conditions de vie, sans agression de l'environnement excessif. Le stress, je ne sais pas très bien ce que c'est. En fait, on sait tous ce que c'est le stress, mais il est très variable dans son seuil de déclenchement de tel ou tel symptôme. Sans consommation excessive de drogue, d'ailleurs qu'il s'agisse d'alcool, de tabac ou d'autres drogues, je pense que c'est exactement, effectivement, pareil, tel que des éléments récents nous l'ont signalé. La consommation de tranquillisants, et nous sommes tout de même le premier pays au monde à prendre des tranquillisants, et il faut tout de même nous interroger sur cette consommation nocturne de tel ou tel comprimé pour bien dormir. Et je pense que là est plutôt la responsabilité de se maintenir en bonne santé, plutôt que les antibiotiques, la greffe, ou la recherche de tel ou tel germe, ou la recherche incessante par l'échographie ou le scanner de telle ou telle tumeur. Ainsi, être en bonne santé dépasse largement le champ de la médecine. La médecine doit rester un recours et elle ne doit pas être au centre de la vie. Le troisième point, qui est un petit peu relié, est la notion de performance médicale ou chirurgicale. Il n'y a pas de jour où un journal ne vous cite pas la performance de telle équipe qui a reculé les limites, qui a permis des maternités de plus en plus artificielles, et on s'y perd. On envisage de créer des embryons non seulement pour la recherche, mais pour la thérapeutique, comme si l'humanité avait fait ce pas gigantesque de considérer que mettre des embryons destinés à réparer l'humain était pour demain. C'est tout de même assez impressionnant de voir les exploits des obstétriciens qui mettent au monde des prématurés de plus en plus jeunes, de plus 22, 23 semaines, et comme si c'était un exploit médical, au poids de plus en plus faible. On est dans les records, on était à 500 grammes, maintenant 485 grammes, qui dit mieux? Et on a une sorte de notion que la performance s'apparente de plus en plus à l'exploit sportif. On va effectivement greffer, et ça peut être très très bien pour notre pays, un bras, deux bras, sans s'interroger éventuellement sur la finalité de ces gestes. Il est vraisemblable que, ça peut paraître spectaculaire, mais dans quelques mois, on pourra probablement greffer la rétine, et il sera intéressant d'évaluer éventuellement cette greffe qui nous laissera probablement pantois pendant quelques mois. Alors que cette performance, médicale ou chirurgicale, elle se fonde, elle s'est toujours fondée sur le désastre. Non pas que la performance est un mal en soi, mais il y a toujours l'arrière-pays sur lequel elle se fonde. Il est évident que la prématurité croissante, aboutissant à des naissances de plus en plus précoces, donc, est responsable d'un nombre de handicaps qui ne diminue pas. On aurait pu penser que la médecine contemporaine allait aboutir à ce que les procédés de dépistage avant la naissance, d'échographie, réduisent le nombre de handicaps graves, et on s'aperçoit que ce nombre de handicaps non seulement reste stable, mais a tendance à augmenter. La recherche génétique est de plus en plus fascinée par elle-même, et vous avez eu des conférences sur le sujet, et il y a une sorte de curiosité inlassable de découvrir de nouveaux gènes. Mais je suis frappé de voir l'écart qui sépare cette gourmandise, cette curiosité d'avoir de nouveaux gènes, et puis l'écart qui la sépare d'une vraie thérapeutique. Et je trouve qu'il y a les chercheurs ne sont pas suffisamment conscients de l'angoisse suscitée par le risque incertain d'apparition d'une maladie dans un délai toujours inconnu. Comment peut-on gérer cette angoisse alors qu'il n'y a aucune thérapeutique? Comment gérer l'annonce que l'on est porteur d'un gène de la mort subite? Ce gène existe et on ne sait pas si on fera une mort subite à 20 ans ou à 80 ans. Comment gérer un diabète, l'annonce que l'on est porteur d'un gène d'un diabète insulinodépendant, sachant qu'aucun régime ne pourra le prévenir? Comment gérer l'annonce d'une maladie neurologique de type démentiel sans savoir exactement sa date d'apparition ni la façon de s'en protéger? Il y a donc une sorte de contradiction croissante entre le maniement de paramètres de prédiction. Il y a d'excellents paramètres, par exemple, pour prédire le risque cardiovasculaire absolu. On vous dit, à 50 ans, avec ce que vous êtes, vos habitudes de vie, vous avez 43% de chance à 10 ans de faire un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Et au fond, il y a une sorte d'instrumentalisation divinatoire du corps, et on est frappé de la désinvolture avec laquelle les citoyens continuent de fumer, de boire, de manger, d'avoir une conduite sexuelle à risque, dans la plus totale désinvolture, et cela en dit long sur notre incapacité, et je dirais presque heureusement, notre liberté d'être humain de s'adapter à des conduites raisonnables. Si l'homme devenait raisonnable, je pense que ce serait la fin. Mais en même temps, une médecine qui considère qu'elle va lui insuffler un rationalisme divinatoire pose problème. Ainsi, je ne pense pas que la recherche médicale ne doit pas, au nom de ses valeurs propres, être indifférente aux conséquences qu'elle peut inscrire dans le temps à vivre. Le quatrième point, c'est le changement de société, ça peut être un truisme, qui récuse le paternalisme médical au nom de ce pouvoir qui était fondé sur la compassion, sur la connaissance scientifique attribuée aux médecins, héritier de cette période du XIXe siècle, ou même avant, où le médecin savait tout et le malade quasiment rien. Changement de société qui met en avant, comme un prérequis, comme un préalable, le droit, la liberté du malade à se faire soigner et à connaître son destin. Cette revendication légitime est liée à ce que je disais initialement, c'est-à-dire l'extériorisation du corps sur des images ou des chiffres, que le malade veut s'approprier, puisque son identité repose beaucoup plus sur ses chiffres, sur des images, que sur sa propre expérience. Et il n'y a aucune raison de ne pas communiquer aux malades qui souffrent la totalité des éléments d'images et des chiffres de son dossier. Et il est dans ce domaine, effectivement, le premier intéressé. La question que je me pose, et je n'ai pas de réponse, c'est de savoir si cette revendication contemporaine, si légitime, ne serait pas une sorte de victoire à la Pyrrhus, aboutissant à ce que le dossier médical, gardé par le médecin généraliste ou gardé par l'hôpital, ne protégerait pas éventuellement le malade d'avoir à dire à l'autre ce qu'il a. Car il ne pourra pas éluder les questions sous prétexte que la médecine, comme d'habitude, ne lui a rien dit. Le mari revenant peut toujours dire à sa femme, tu sais, le médecin ne m'a rien dit et tout s'arrête là. À partir du moment où le dossier médical sera confié comme une évidence, il est évident que la femme pourra très bien dire, tu as ton dossier, on peut le regarder, et réciproquement, et cela peut marcher très très bien, quelquefois cela peut créer une ambiguïté. Et donc, on peut se poser la question de savoir si chaque malade dûment informé ne devra pas rendre des comptes à ses proches et éventuellement à la société. C'est évident que le futur, dans les prochaines années, même prochains mois, dans notre pays en tout cas, le futur vers cet accès direct au dossier médical apparaît comme une évidence. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas penser que, au fond, le paternalisme ancien était simplement la protection du médecin, il était aussi quelquefois la protection de la personne, du malade, parfois à son insu. Car le médecin, comme tout homme, comme toute femme, s'identifie souvent à l'angoisse potentielle de celui qu'il soigne et ne veut pas forcément le confronter à un avenir qu'il voit quelquefois plus sombre que celui que le malade envisage. Et d'ailleurs, le droit du malade n'est pas non plus relié forcément à une exigence claire, formalisée d'une demande qui réponde à un besoin. Il s'agit parfois d'un désir pour un objet obscur dont la médecine ne détient pas la clé. Et vous savez très très bien que quand on va voir un médecin, ce n'est pas forcément pour lui parler de ses symptômes, mais pour lui parler d'autre chose et que le médecin puisse vous écouter, qu'il puisse entendre autre chose que les symptômes que l'on lui a mis devant lui. Et c'est pour ça que la réponse technique actuelle, coloscopie, mammographie ou biologie, à cette demande d'accès direct sans accueil ni écoute de cette souffrance, sera inefficace et risque d'aboutir à une violence supplémentaire. Ce serait encore relativement simple si la demande d'un besoin et d'un désir était clairement identifiée. Or, il y a souvent un tressage permanent des deux. Et au fond, je pense que la connaissance par les médecins des souffrances fait que quelquefois, ils vont eux-mêmes confronter leur expérience à la propre expérience de celui qui peut souffrir lui-même. Ainsi, le malade atteint de sida, qui veut être moins fatigué. Il est sous trithérapie, il va mieux, il bénéficie d'une thérapeutique contemporaine, et il demande à être moins fatigué. Et il va donc demander une aide psychologique. Cette fatigue, elle est quelquefois due à la maladie, mais elle est souvent due à l'image sociale de cette maladie qui crée une angoisse existentielle. Alors que celui qui, au fond, n'a pas de maladie particulière, mais qui est épuisé nerveusement par des soucis professionnels, familiaux, amicaux, bref, qui n'en peut plus pendant une période de sa vie, mais dont les symptômes sont suffisamment flous pour que la médecine ne les accueille pas, revendique quelquefois d'avoir une bonne maladie clairement identifiée, fût-elle grave. Et c'est cette étrange demande d'avoir une maladie que la médecine reconnaîtrait, qui crée quelquefois une grande confusion. En effet, le caractère flou et imprécis des symptômes est quelquefois insupportable, alors que cette médecine des symptômes était acceptée au XIXe siècle et au début du XXe siècle, elle est devenue inacceptée par la médecine contemporaine. La cinquième question sur laquelle je voulais insister, qui me frappe, c'est l'écart qu'il y a entre les informations multimédia, nous avons aujourd'hui Internet, tous les serveurs grand public, les annonces journalistiques, il n'y a pas d'hebdomadaire, il n'y a pas de quotidien qui ne titre pas sur telle ou telle annonce médicale, ce que j'appellerais l'effet cinéma de la médecine, on l'a vu avec urgence, et le rapport, l'écart considérable qu'il y a entre cette mise en spectacle de la médecine et puis la simplicité, l'humilité de la médecine quotidienne. L'exigence juridique qui oblige à informer de tous les ennuis et qui vient d'ailleurs se greffer en demandant qu'on annonce toutes les complications graves qui peuvent survenir lors de tel ou tel examen, finit par donner l'illusion que la médecine est maintenant, il y a des tables de la loi, il y a des certitudes, des découvertes fracassantes, immédiatement utilisables. Il suffit que une découverte témoigne des tortues de Galapagos dont le cancer aurait régressé pour qu'immédiatement l'annonce soit répercutée. Et comment, lorsque l'on a soi-même un cancer, ne pas voir avec un espoir fou, généralement déçu quelques jours après, cette annonce qui a été passée par tel ou tel média. Donc, l'écart entre cette information tous azimuts où la médecine est venue s'infiltrer dans notre quotidien et la disparition de la simple écoute « j'ai envie d'être entendu par un médecin » est croissante. Comme si être informé de la médecine disait quelque chose du corps souffrant, alors que le malade, lorsque je serai malade et j'ai été malade, ce que l'on veut, c'est être entendu, écouté dans sa plainte si personnelle. Il n'y a pas de plainte collective, il y a la plainte de soi. Comment ne pas être bouleversé par cette rencontre récente, cette année, avec une malade à la fin de sa vie, que j'écoutais en silence, me raconter sa souffrance et ce qu'elle pensait de son corps en fin de vie, et qui, après une vingtaine de minutes, me dit, alors que je n'avais quasiment rien dit, « Docteur, on ne m'a jamais aussi bien expliqué ma maladie. » Je ne peux pas faire de cette expérience une sorte d'opportunisme. On a souvent reproché, à juste titre, aux médecins d'être trop silencieux, de ne pas expliquer, de rester rivé comme s'il y avait une sorte de boîte noire de la médecine qui était toujours cachée. Mais cela en dit long aussi sur ce que l'être humain demande à l'autre, et en particulier aux médecins, pas uniquement une avalanche de chiffres, de paramètres ou d'images. Et on voit alors le danger d'un discours dont la subjectivité est disparue, remplacée par des mots techniques d'emprunt, les mots que j'utilisais initialement, mammographie, etc., crée une sorte d'écart entre une réalité du corps et une médecine de plus en plus virtuelle. Et je voudrais dire quelques mots dans ce domaine sur le secret médical. Car c'est simultanément une valeur considérée comme intransgressable. Et pourtant, la société passe son temps à le mettre à mal. Il y a en effet, nous sommes dans une société qui passe son temps à dire « nous voulons de la transparence » et en même temps, volonté de secret. Et il est évident que c'est contradictoire. On dit « je veux tout savoir de l'autre, mais je veux qu'on ne sache rien de moi ». Cette conception si naturelle se retrouve dans le désir, je dirais probablement légitime et étrange tout de même, des familles des malades, de tout savoir en disant « je veux savoir pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants ». Les enfants, c'est généralement évident en bas âge, mais « je veux savoir pour l'aider ». Alors que soi-même, quand on est malade, il n'est pas évident qu'on a forcément envie que les autres soient informés plus qu'on ne l'est soi-même. Alors, il est évident que si on est sans connaissance, les autres remplaceront sa conscience. Mais il n'y a pas de plus grande rupture entre une famille, des amis qui savent tout et auxquels la médecine a tout livré, et puis le malade, entretenu dans une illusion parfois trompeuse. toujours frappé de voir qu'un cancer bronchique dans une phase terminale, quand les médecins s'approchent du malade et avec quelques mots, lui donnent quelques mots rassurants, sortent de la chambre et disent à la femme, au mari, écoutez, c'est dramatique, il n'y a rien à faire. Et laissant aux autres le soin de gérer le deuil de cette situation grave. Le secret médical y passe avant tout, et c'est le secret, par la communication avec le malade lui-même. Lui-même peut dire à sa famille tout ce dont il a envie. Au fond, le malade est l'intermédiaire entre le médecin et la famille. Ce n'est pas médecin, famille et malade, c'est médecin, malade et famille. Hors de cet échange, rien. Un mur du silence qui doit être construit, un mur difficile, car toujours en contradiction avec la société qui a envie d'exprimer sa curiosité, sa compassion, voire quelquefois de façon plus ambiguë, ses intérêts. Je pense que le secret médical est une des rares protections de la personne vis-à-vis de la prégnance contemporaine de la société. C'est une valeur à respecter, même si elle apparaît par son respect même comme agressive vis-à-vis de la société, vis-à-vis du groupe. Mais ce secret justifie encore plus que l'on s'approche du sujet malade. Car le secret n'est pas opposable aux malades. Et c'est pourquoi les malades ont droit à la vérité. Alors, c'est un mot qui peut être pris dans ses sens les plus ambigus. Je ne crois pas à un concept de vérité utile ou de vérité contestable. Comme s'il y avait une sorte de code opportuniste à géométrie variable qui est peut-être le comble de ce que l'on reproche au paternalisme médical. Notre angoisse n'est pas nécessairement celle du malade, que ce soit en deçà ou en delà. Dire la vérité à un malade, ce n'est pas le tuer en une seconde fois en lui fermant tout espoir, c'est le respecter. Et la complexité de cette question peut être lue comme la condition même du dialogue, au cœur de la relation de soins pour le rétablissement de l'unité. Comment mettre, en effet, en commun avec un patient, voire avec sa famille, avec ses proches, un savoir qui porte un tel excès de signification qu'il en devient insupportable, voire inhumain. Ce savoir de dire à un malade qu'il a un cancer de telle gravité échappe, en effet, au moment où il est énoncé. Et c'est parce qu'il échappe que doit s'instituer un espace d'accueil dynamique qui, plutôt que de s'interroger sur le point de savoir s'il faut ou non restituer l'information, s'interroge selon quelles modalités et selon quels objectifs visés. Le point important, c'est que l'annonce d'un diagnostic, d'une thérapeutique, s'inscrit certes dans l'instant, mais elle s'inscrit surtout dans la continuité d'une rencontre. Et le problème est de la gestion de l'instant et de la gestion du long cours. Or, la médecine a tendance à gérer l'instant et pas le long cours. Cette annonce est une modalité de l'accompagnement comme un signe de présence humaine au service de la personne et au service de ses proches. Un malade ne peut être confronté, quel que soit le diagnostic, à un diagnostic froid. Il doit être confronté à sa vérité dans un accompagnement permanent, dans un projet, qu'il soit thérapeutique ou qu'il soit palliatif. En soi, la vérité n'a de signification de pertinence qu'inscrite, vécue, intégrée et partagée à travers une relation maintenue, toujours possible et toujours porteuse d'un projet. Respecter la vérité du malade, c'est lui permettre de la vivre selon son attente. C'est pourquoi informer, c'est restaurer l'autre dans son sentiment d'être toujours respectable. Les deux ou trois derniers points concerne la médecine individuelle, la médecine collective, les soins palliatifs et puis la relation la plus contemporaine. En effet, médecine individuelle, médecine collective, il y a un conflit croissant qui se dessine entre la revendication de chacun à vivre librement et en toute responsabilité sa protection individuelle et puis les exigences de vivre dans un pays qui a une solidarité collective, un intérêt général qui cherche à dégager les priorités dont la première est le bon usage des fonds publics avec cet éternel problème de la sécurité sociale avec son déficit dont on nous parle chaque année. Et où est la frontière entre ma liberté, la liberté individuelle, et la responsabilité collective des citoyens auprès desquels je vis? Et dans ce domaine, État médecins et citoyens passent leur temps à osciller entre les deux pôles. Il y a, depuis une dizaine d'années, depuis l'histoire du sang contaminé et l'histoire de l'encéphalopathie spongiforme, une exigence sécuritaire croissante de l'État qui apparaît comme un problème de responsabilité politique et qui est devenu juridique dans la mesure où les politiques ont eu à répondre devant les juges. Et peu importe le coût, le problème actuel des politiques est de ne pas encourir de reproches. Et on l'a vu par exemple en 1994 où en quelques jours, on a généralisé la vaccination contre l'hépatite B pour 24 millions de Français sans évaluer éventuellement ni le coût ni réellement l'efficacité de cette vaccination, même si elle est extrêmement utile, sa généralisation ne l'est peut-être pas autant qu'on l'a dit. Des exigences excessives, probablement, à propos de matériel à usage unique. On utilise actuellement des cathéters qui coûtent 10, 15 000 francs pour un geste de 10 minutes, sous prétexte que le réutiliser pourrait transmettre la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Vu du côté du consommateur de soins, ce qui est devenu un usager, il s'agit d'une revendication plus ou moins entretenue, croissante, d'un risque nul pour soi-même, quelles qu'en soient les conséquences financières pour les autres, avec d'ailleurs la confusion, peut-être plus importante en France que dans d'autres pays, entre cette exigence pour lui, qu'il s'agisse de prévention ou de curatif, et la santé publique au sens communautaire du terme. C'est pourquoi les médecins sont très embarrassés, parce qu'ils sont soumis aux triples pressions des malades demandeurs, on l'a vu, je veux savoir ce qui ne va pas, même si je ne suis pas malade, je veux connaître l'intérieur, la justice qui est à l'affût et l'État qui demande simultanément une réduction des coûts, mais en même temps la sécurité maximum. Et donc cette ambiguïté finit par faire que les médecins vont privilégier une relation individuelle dans l'indifférence des conséquences pour le plus grand nombre. Et dans ce domaine, l'absence de débat démocratique sur les choix de santé dans notre pays me paraît assez grave. Les États généraux que j'ai animés avec d'autres l'année dernière ont montré que, malgré l'intérêt public, les choix étaient, en l'absence d'informations réelles, extrêmement difficiles. Et donc on aboutissait à ce sont toujours la même chose, ce sont les professionnels, c'est-à-dire les médecins, les chercheurs, qui, d'eux-mêmes, fixent de nouvelles priorités, beaucoup plus en fonction des progrès de la médecine technique, et vous en avez eu le développement, que des besoins réels. Et dans ce domaine, l'absence d'évaluation de pratiques désuètes, l'absence d'évaluation des rapports entre un bénéfice et un coût d'une thérapeutique, bénéfice et risque d'une procédure diagnostique, bénéfice, efficacité dans la prévention, me paraît poser un problème majeur, dans la mesure où les discours réitérés professionnels et non professionnels réclament sans cesse des moyens nouveaux, sans interroger, et sans, sur leur capacité à réfléchir sur la finalité des soins. C'est ainsi que, quelquefois, je suis frappé du fait que les discours scientifiques sur la médecine prédictive avec cet avenir radieux, la médecine de prévention, chacune plaidant pour elle au nom de l'éthique médicale, du bonheur de l'humanité, finissent par créer dans la population une exigence apparemment légitime, en fait, quelquefois discutable. C'est pourquoi je pense que soigner l'autre sous le regard du tiers, et le tiers, c'est l'État, est pour moi l'enjeu majeur du futur. C'est la seule façon de protéger un système coûteux mais qui demeure efficace. Aucune entreprise ne pourrait survivre, car si elle laissait à ses mandataires le soin d'agir selon leur propre conscience ou compétence. Garons-nous plutôt d'une médecine qui ne travaillerait que pour elle-même. Et le problème, c'est d'engager notre responsabilité de médecin dans tous les sens du terme. Je terminerai par la médecine palliative. Qu'y a-t-il de plus désespéré, de plus démuni que ceux qui terminent, et nous terminerons tous notre vie, quelle que soit la façon dont nous la terminerons, dans une situation de détresse, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit à domicile. L'espoir, certes, peut toujours demeurer, et chacun a toujours l'espoir que sa vie se prolongera. Il y a une sorte tout de même de vision, non pas d'immortalité, mais d'amortalité que la médecine pourrait faire surgir. Et l'affrontement d'une fin qui ne peut être indéfiniment retardée et la justification profonde de soins palliatifs qui ont mis du temps à venir dans notre pays, mais qui maintenant commencent à être bien insérés. Les soins palliatifs ne sont pas, comme on le croit, les soins donnés à l'agonisant, à celui qui, dans les dernières heures, aurait besoin éventuellement de quelques reconforts. Les soins palliatifs, ce sont des soins destinés à un malade dont on peut penser que les chances de guérison sont faibles, voire nulles. Et on peut dire d'ailleurs que toute la médecine est une médecine palliative, car elle n'empêchera jamais la mort. Mais lorsque une maladie bien identifiée ne peut être traitée, que ce soit une maladie neurologique, certains cancers, maladies du sang, certaines infections, les soins palliatifs sont une approche de l'homme sinon nouvelle, tout au moins qui change la nature de la relation thérapeutique. C'est une médecine attentive à la personne, aux symptômes, à son angoisse, à son confort, à la façon de respirer, la façon dont elle élimine ses émonctoires. Cette médecine de la personne tente à tout prix de maintenir une relation entre le malade et son entourage. La question peut cependant quelquefois être posée, même si elle est choquante, des limites de la médecine palliative. Et la liberté du malade, à laquelle je suis très attaché, comme je pense la plupart des médecins, elle passe peut-être aussi par le souhait d'en finir et de cesser les soins. Et l'avis que le comité a rendu il y a quelques semaines était justement dans cette approche de la liberté, non pas que la médecine ait le droit de tuer, elle n'a pas le droit de tuer, mais elle peut respecter et entendre le désir éventuellement d'en finir. La médecine palliative est en effet au cœur de la relation entre un médecin et un malade. Je terminerai par ce point de la relation qui était le titre de la conférence, le malade et ses médecins, ou le médecin et ses malades, car cette relation a changé. Le médecin a perdu de son caractère totipotent, un peu hors champ de la société. Et les patients sont de moins en moins patients. Je pense que le mot patient est un mot qui devrait disparaître du langage dans les prochaines années, car il y a un autre type de relation qui est en train de s'installer. Le problème, c'est qu'il ne faudra pas que cette relation se fasse dans un climat conflictuel. Et on a vu, entre l'État, les médecins, les malades, avec chacun leurs intérêts divergents, les malades revendiquant de façon la plus normale une sorte de droit à être guéri, ou au moins à être informé sans cesse, à être informé même des hésitations des médecins. Et puis, la médecine qui rentre un petit peu à reculons, considérant comme une intrusion le droit de savoir des malades. Quand un malade arrive avec la fiche internet des symptômes reliés à une maladie, la médecine est un peu sur sa défensive en se disant « Mais qu'est-ce que je peux faire face à cette information que le malade m'apporte ?» En fait, la médecine du futur est une médecine de confiance. Les malades ayant accès à des choix complexes, obtenus par quel que soit le média, les médecins deviendront de plus en plus des conseillers d'orientation. Il est d'ailleurs étrange que le modèle biomédical, c'est-à-dire ce modèle où il y a une maladie bien identifiée, un microbe, un virus, un parasite, une cellule tumorale, ait à peu près confisqué la totalité de la relation. Il est évident que ce modèle ne s'épuise pas. Mais il engendre une demande, comme on l'a vu initialement, de plus en plus extérieure aux malades. Alors que, depuis 2000 ans, la souffrance des êtres humains n'a guère changé. Les malades demandent avant tout que la médecine, le médecin, les médecins les écoutent. L'angoisse de la vie du temps présent ne peut alors, en effet, encourager, en l'absence d'écoute, au recours à des médecines parallèles, souvent coûteuses, qui témoignent simplement du désir de maîtriser l'environnement scientifique de la médecine, d'avoir autorité sur les traitements. Ce qui est étrange, c'est que les médecins, certains se traitent aussi par l'homéopathie, même s'ils n'y croient pas pour les autres, ils se traitent aussi par l'acupuncture, même s'ils n'y croient pas pour les autres, et ils ont recours de façon étrange à l'astrologie, même si c'est en opposition totale avec leur rationalité, leur rationalisme. Étrange monde que cette juxtaposition permanente des données les plus rationnelles, les plus scientifiques, et celles relevant d'un imaginaire toujours plus riche. Un médecin psychiatre disait que les médecins avaient réussi à réintroduire, depuis le XXe siècle, un semblant d'éternité dans l'éphémère. Il ne faudrait pas que cette illusion dangereuse fasse perdre l'essentiel de la vie, qui est la conscience permanente de sa fragilité et l'affrontement lucide de sa mort. Je terminerai par la phrase de Jean-Luc Nancy dans ce livre « L'intrus » qui m'a beaucoup frappé, car c'est très rare qu'un grand philosophe, un des plus grands philosophes contemporains qui a subi une greffe cardiaque, parle de ce rapport au corps. Il disait que isoler la mort de la vie, ne pas laisser l'une intimement tressée dans l'autre, chacune faisant intrusion au cœur de l'autre, voilà ce qu'il ne faut jamais faire. Je vous remercie.
Bien. Si vous voulez poser des questions, des micros circulent dans la salle. Il suffit de lever la main et on vous la porte. Si vous voulez poser des questions, allez.
Bonsoir. J'aimerais poser la question de la vérité en médecine. Puisque je suis médecin et psychanalyste, et c'est vrai que j'écoute beaucoup de patients, et la question de la vérité me semble difficile, parce que, par exemple, si j'annonce une séropositivité à quelqu'un au Tibet, j'annonce rien. Et si j'annonce une séropositivité au VIH ici, j'annonce un tissu de représentation, et je crois que l'idée de la vérité en médecine n'existe pas. Il y a une vérité biologique, mais il y a une vérité subjective. Et il y a toute la part de la subjectivité dont vous avez parlé, la représentation et aussi l'épistémologie intérieure, c'est-à-dire toute l'histoire de la médecine et l'histoire de la représentation de l'atteinte pour la personne. Et je pense qu'il y a un danger actuel très très grand, ce sont les juristes qui obligent à nommer aux patients et à prouver l'information de toutes les conséquences, y compris rarissimes. J'ai entendu ce matin un juge atteint par le VIH qui me disait « Je ne veux absolument pas que vous me disiez les conséquences éventuelles d'un médicament, sauf si c'est nécessaire. » Et comme on discutait après de sa vie, je lui demandais qu'est-ce qui se passerait s'il me voyait en justice. Il me disait qu'il m'inculperait. C'est-à-dire que je trouve que la justice est partie du côté de... d'une illusion biologique de la vérité sans prendre en compte l'être humain dans sa complexité, et que cette négation de l'être humain par la justice qui exige des médecins une obligation d'information à des patients qui ne la demandent pas. Quand les patients la demandent, c'est autre chose. Parfois, on demande quelque chose qu'on ne veut pas, c'est encore autre chose. Parfois, on oublie ce qu'on nous a dit parce que c'est trop traumatisant et qu'on est lié au refoulement et au déni, mais je trouve qu'il y a un côté grave. Non, mais il y a un côté grave d'obliger comme ça un patient à savoir quelque chose qui peut être exceptionnel et qu'il n'a pas demandé.
Merci.
Mais je crois que le problème ne se pose pas tellement. Je pense qu'il n'est pas question que la médecine aille, quand je disais, tuer un malade en lui annonçant quelque chose qu'il ne souhaite pas. Il est évident que le respect de la personne qui souffre, lorsqu'elle ne pose pas de questions, c'est de ne pas lui faire entrevoir un avenir sombre qu'il ne souhaite pas. Et que je pense que chaque être humain, n'a pas tellement envie de savoir ce qui va lui arriver. Le danger, ce serait de penser que la médecine irait vers cette livraison d'une vérité meurtrière et menaçante au nom de valeurs qui n'ont rien à voir avec la médecine et qui seraient des valeurs juridiques. Si la médecine transformait sa responsabilité médicale de l'approche de l'autre dans le respect de l'autre en une responsabilité médico-légale, comme si elle avait peur des juges, ce serait une catastrophe pour tout le monde. Mais je crois qu'il y a une conscience et je pense que le transfert de cette responsabilité médicale qui n'est jamais quitte de ce qu'elle doit faire vis-à-vis de l'autre me paraît dangereusement menacée si, effectivement, à cause des juges, elle se protégeait d'une critique éventuelle. Je pense que c'est une possibilité, je crois que dans notre pays, le bon sens devrait prévaloir.
Attendez, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez attendre que vous passe le... Est-ce que vous pourriez attendre qu'on vous passe le micro, s'il vous plaît ? Non, non, mais il y a quelqu'un qui a un micro là-haut et j'aimerais qu'il puisse poser sa question. Vous pouvez poser votre question là-haut, s'il vous plaît.
Avec les progrès de l'informatique, surtout l'agressivité de l'informatique, comment le secret médical va être protégé ?
Je pense que c'est une question très importante parce que si le dossier médical est mis sur Internet, et il va l'être. Il y a déjà des entreprises qui travaillent sur le fait que chacun puisse gérer sur son propre ordinateur son dossier médical. Je crois qu'effectivement, il y a un danger à partir du moment où ces données... Ce n'est pas tellement que quelqu'un d'autre viendra avec un code piller ce secret de dossier, mais il est effectivement dangereux que chacun ayant son dossier médical sera sinon obligé, mais il ne pourra que livrer, il ne pourra pas se réfugier derrière « je ne sais pas ». Et le « je ne sais pas » est une protection. Il est évident que le respect du secret d'une infection VIH me paraît de l'ordre des droits élémentaires d'un être humain. Et à partir du moment où chaque malade, on lui dira que son dossier est à lui, et quitte à en faire ce qu'il veut, des pressions seront probablement très grandes pour qu'il puisse éventuellement le livrer. Et je crois qu'il y a pas mal de travail à faire sur le maintien du secret médical. Et je crois que c'est une valeur qui est tellement menacée qu'il faut la reconstruire et non pas considérer que c'est une valeur traditionnelle. Je pense qu'il y a un travail où il y a peu de domaines où l'intimité de chacun doit être protégée, quelles que soient les conséquences pour la société.
Bon, je voudrais dire qu'il faudrait peut-être souligner que la médecine est quelque chose de difficile. D'autre part, concernant l'écoute du malade, si vous prenez le cas des cancers au début, il est certain que le malade ne se plaindra pas et pourtant il faudra prendre, ce problème vraiment très sérieusement. Si le malade se plaint, très longtemps les médecins, et encore certains, et encore beaucoup malheureusement, ne s'occupent pas tellement de la douleur du malade, considérant la douleur comme quelque chose d'accessoire. Et troisièmement, si le malade est angoissé, bon, ça peut correspondre à quelque chose de très important au point de vue gravité, ou au contraire, est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas faire intervenir un psychologue ? Et que pensez-vous, pour terminer, de la médecine d'équipe ?
Je crois que les médecins commencent depuis 5 ans à se préoccuper beaucoup plus de la douleur qu'ils ne le faisaient. La France avait un retard énorme dans ce domaine. Mais ce n'est pas uniquement d'ailleurs en utilisant la morphine, mais il y avait une négligence certaine. Et d'ailleurs, l'hôpital reste un lieu, étrangement, où les investigations sont douloureuses, pénibles. Il n'y a pas encore une attention suffisante à la douleur. Bon, déjà, être malade, c'est déjà désagréable. En plus, avoir mal lors d'une investigation peut être insupportable. Mais je crois que dans ce domaine, il y a probablement des progrès. Mais je ne crois pas que les psychologues ont une part énorme, importante dans la relation médecin-malade. Mais à mon avis, le psychologue ne peut pas remplacer ce dialogue entre un médecin et un malade. J'assistais il y a quelques jours à une réunion où des chirurgiens disant « Oh là là, c'est quand même assez difficile de raconter à un malade qu'il a un cancer de la vessie, on va passer par le psychologue pour qu'il lui explique. » Et là, je crois que c'est une démission. Autant le psychologue peut parfaitement être en appui, mais rien ne remplacera le professionnel qui s'approche de son malade, non pas en lui donnant une information et en se sentant déchargé. Au fond, quand cette médecine de décharge, je lui ai dit, maintenant qu'il se débrouille, peut paraître à l'opposé de la relation médecin-malade. Et je crois que les psychologues ont un appui, mais à mon avis, pas tellement dans le domaine de la vérité. Et pour terminer sur votre question sur médecine d'équipe, c'est évident que nous changeons d'air et que les médecins généralistes se mettent en cabinet de groupe, les médecins généralistes travaillent en réseau avec les hôpitaux, avec les cliniques, donc la médecine tout seul est en voie de disparition. Je pense que dans 20 ans, ce sera un métier qui aura à peu près disparu dans sa solitude. Mais il faut se méfier d'une médecine où le groupe de médecins, de psychologues, d'infirmières, par rapport à un malade, l'information circule en périphérique, en satellite. Il y a, pendant 2 heures, les médecins s'affrontent, qu'est-ce qu'il faut lui dire, les infirmières, l'aide-soignante, chacun donne son avis. Et puis, au dernier moment, comme dans un film, on va lui donner une petite information de quelques minutes, et au nom de la communication de l'équipe médicale, il y aura une livraison d'un produit manufacturé. Et je crois qu'il faut se méfier, au fond, du caractère un peu vain d'une communication médicale qui échappe aux malades. Et qu'on devrait arriver... le malade ne peut pas être non plus être un acteur de sa santé, même si, s'il le souhaite, il doit être un acteur. Mais on ne peut pas faire de chaque malade, je ne suis pas sûr, si j'ai un cancer du rein, que j'ai envie de connaître exactement dans tous les détails la forme histologique et le pronostic à 6 mois ou à 9 mois. Probablement, j'aurais envie de rester dans un flou artistique parce que j'ai des projets, je n'ai pas forcément envie d'avoir un compte à rebours. Mais si j'étais un autre caractère et que j'aurais envie de savoir si je peux faire telle chose, tel livre, telle conférence en 6 mois et que je veux savoir si je peux la faire à 6 mois ou à 7 mois, effectivement, je crois que je ne supporterais pas qu'on me cache la vérité, mais qu'en même temps, on ne me l'impose pas et qu'en même temps, je puisse y accéder si je le souhaite. Je pense que nous sommes dans une ère où les mots responsabilité ne sont pas des mots abstraits. Quand je pense que la médecine doit engager sa responsabilité au sens le plus noble du terme, et en même temps qu'elle doit protéger le malade qui est venu se confier en lui, en pensant que probablement ce malade ou cette malade a envie de rester dans cette ignorance, quand cette femme me disait « on m'a parfaitement expliqué ma maladie alors que je n'avais rigoureusement rien dit », cela voulait dire, au fond, « vous m'avez écouté », mais vous m'avez rien expliqué, au fond, c'est très bien comme ça. Mais au fond, ne dites rien. Ne dites rien. Et je pense que peut-être une grande partie de l'humanité est comme ça. On a envie que, au fond, le médecin peut avoir cette fonction qu'avait peut-être le confesseur autrefois, ou qu'il a encore quelquefois, c'est-à-dire d'être entendu, d'être déchargé de son poids. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que il y ait ce désir de connaître de son destin avec une précision insupportable.
Oui. Allez-y. Oui. Je voulais amener quelques réflexions sur le médecin et le pas encore malade. Il me semble qu'entre la médecine doit rester un recours et la notion émergente de responsabilisation progressive des gens vis-à-vis de leur santé, c'est-à-dire le fait de rendre des comptes à la société, c'est-à-dire, in fine, ce qui implique presque à terme une perte de la mutualisation des dépenses de santé, c'est-à-dire rendre à chacun selon ses mérites. Donc, entre la médecine doit rester un recours et cette notion émergente, il y a comme un hiatus. Tant que la médecine n'intégrera pas dans sa pratique rémunérée, et justement rémunérée, l'éducation des non-malades, en termes de prévention, de diététique, d'hygiène de vie, nous n'éviterons pas l'escalade insupportable des coûts. Mais les médecins donnent-ils l'exemple en étant eux-mêmes moins malades, en durant plus longtemps que leurs contemporains ? Déjà, Voltaire disait « Je ne connais rien de plus drôle qu'un médecin qui ne meurt pas de vieillesse. » Je ne crois pas que les choses aient tellement changé. Pour ma part, quand je vois un cancérologue qui fume, une pédiatre qui n'allaite pas ou qui n'a pas allaité ses enfants, et même, in fine, enfin, à la limite, un gériatre qui a les cheveux blancs, comme un coiffeur chauve, moi, je me dis qu'il y a mal donne et je lui confie pas grand-chose. Alors, une utopie, maintenant.
Est-ce que vous pourriez poser une question?
Oui, ben justement, elle est dans l'utopie. Le jour où la médecine remplira vraiment son rôle, le médecin n'aura pas besoin de prendre sa retraite, il gardera son enthousiasme, il sera un modèle pour ses contemporains. C'est pour quand?
Vous avez raison sur le fait que l'éducation pour la santé, à mon avis, prime les investigations. Mais c'est postuler que ce que je disais, que l'humanité est raisonnable. Et effectivement, chacun sait qu'il est beaucoup plus important de ne pas fumer ses 2 paquets par jour, de ne pas boire ses 3 whisky quotidiens, ou de maigrir, grossir tous les 15 jours en fonction de tel ou tel hebdomadaire, est une sorte d'impératif pour demeurer en bonne santé. Le problème, c'est que la médecine n'est pas là pour maintenir la bonne santé. Elle est là pour réparer, elle est là pour venir en secours. Je crois que si on médicalise la vie, vous avez raison sur le fait que les arguments que vous avez donnés, c'est effectivement qu'un médecin qui fume a quelque chose d'insupportable. Parce que, par son attitude, il méprise son métier. Je crois qu'il faut tout de même être prudent avant de penser qu'on peut raisonnablement, par une éducation réitérée, changer le destin. Je ne suis pas sûr que notre société soit si mal informée que cela, des dangers du tabac, des dangers de l'alcool, des dangers de la conduite très rapide. Ce qui me frappe, c'est que, au fond, on transfère sur la médecine quelque chose qui serait de l'ordre d'une prévention simple. Et peut-être que les médecins, en étant plus prudents, en gardant leur artillerie médicale, et étant, comme vous le dites, au fond, des vrais éducateurs, c'est-à-dire réfléchissant à ce qu'est le sujet avec ses défauts, avec au fond, ce qu'il a de différent, car le même discours ne s'adapte pas à une femme de 20 ans étudiante qui va fumer et l'homme de 60 ans qui est assez... Le discours identique, et donc c'est pour ça qu'il y a une difficulté, une subtilité, et peut-être que dans ce domaine, les médecins ont peut-être encore un rôle à jouer.
Bonsoir, monsieur. Je suis devant. J'ai une question et puis une remarque. D'abord, je voudrais savoir, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la vérité apportée aux malades est très importante. J'en avais parlé avec le docteur Philippe de Normandie au sujet de la guérison du dé. Donner le désir de guérir un gars, c'est pas lui cacher quelque chose, je suis d'accord avec vous. Mais ma question portera sur autre chose. Quand j'étais en Allemagne, j'étais à Francfort et j'ai entendu parler du docteur Grocke. Je sais pas si vous connaissez. Grodeck ou un nom comme ça.
Et votre question,
Grodeck, oui. Grodeck, oui.
Est-ce que
bien.
Vous pouvez me dire que si vous le connaissez d'une part, et est-ce que vous connaissez les relations qu'il avait avec ses malades? Merci, docteur.
Grodeck était un homme, je crois qu'il vit encore 90 ans, 95 ans. Il vit encore. Enfin, il est mort ou il y a très peu de temps. Non, mais il a vécu, donc, il était très jeune quand Freud est mort en 1946. Non, je ne crois pas. Alors, on ne parle pas du même. Grodeck, Grodeck est... Non, je ne crois pas. Enfin, écoutez, en tout cas, celui que je connais, nous avons... est un homme qui, effectivement, a beaucoup travaillé sur le thème dont vous parliez. Et moi, j'ai lu ses livres et... C'est vrai qu'ils m'ont apporté beaucoup sur cette distance et au fond de cette nécessité qu'un médecin soit dehors et dedans, c'est-à-dire qu'il soit dans son métier, mais qu'il soit en même temps un observateur de son métier. Et c'est peut-être ce qui, au fond, ce métier ne peut se faire que si on a quelque chose qui est derrière vous et qui vous juge dans la relation que vous pouvez avoir.
Allez-y. Le micro, s'il vous plaît.
Vous posez la question de la formation des médecins et du recrutement des médecins. Il y a un généraliste de mes amis m'avait fait la remarque, j'ai fait philo. et c'est parce que j'ai fait philo qu'il peut y avoir coordination, qu'il peut y avoir perception, qu'il peut y avoir dialogue. Et ça m'a intriguée, je ne me suis jamais posée la formation des médecins, mais elle se pose maintenant. Parce que quand je pense que, à partir de 85, je suis ça, les médecins que j'ai rencontrés et ce qu'il y a maintenant, eh bien, c'est tout à fait différent. La formation du médecin, je crois que pour expliquer, il faut avoir des qualités pédagogiques. Pour expliquer. Et ces perceptions, il faut quand même avoir du recul avec soi-même. Et ce recul est absolument nécessaire. Vous avez parlé de ça, qu'on est obligé d'observer. Parce que la difficulté de l'observation, c'est d'être momentanément sans mémoire. Et ensuite.
Oui.
Et j'ai lu dernièrement un livre qui vient de paraître, c'est Les héritiers d'Hippocrate, du professeur Godot. Ça a mis de l'eau en disant quand il parlait du problème enseignant. Et il est très grave. Et il parlait d'un médecin, je ne sais pas s'il est vivant, Henri Estradé, qui se préoccupait de la cause de la maladie. Parce que trouvant la cause, on peut quand même savoir quel est le médicament qui convient, et les médicaments n'est pas tout. J'entendais quelqu'un dire « tu as un bon médicament, maman ». Et en parlait que c'est le médecin. C'est la question du dosage des médicaments. C'est tout ça vous soulevez, docteur.
Oui, mais on demande aux médecins beaucoup. On leur demande d'être des gens compétents, d'être des gens qui passent leur temps à adapter la recherche à leur exercice. Et on leur demande en même temps d'avoir un jugement qui met en abîme ce qu'ils acquièrent comme compétences. Et il est vrai que les études médicales, elles vont, à mon avis, être totalement chamboulées dans les prochaines années, car il y a eu un effort considérable de rationalisation qui était tout à fait nécessaire, parce que, au fond, le plus grave, ce serait de faire du médecin une sorte de d'accompagnant psychologique, compassionnel, gentil, mais qui n'utiliserait pas à bon escient ce que la médecine peut lui offrir. Et donc, c'est pour ça que c'est un métier qui devient écartelé. D'un côté, les étudiants sont formés à la mathématique, à la physique, et en même temps, on voudrait qu'ils aient une vision philosophique, littéraire. Et je pense que ça dépend un peu de l'un ou de l'autre. Mais il est vrai que dans l'étude médicale, l'accent porté sur l'analyse de leur métier, l'analyse de la relation, l'analyse critique de ce que cela veut dire que d'annoncer à tel ou tel malade une information est insuffisant dans ce domaine. Mais quel est le pays qui a réussi ? Je n'en sais rien. Aucun pays n'a encore réussi à former des médecins pour le futur. Et je pense que peut-être que dans ce domaine, il y a eu peut-être un excès de rationalisme dans l'étude de médecine, au détriment peut-être d'une sorte de recul par rapport à ceux qu'ils soignent.
Je crois que nous avons une très bonne médecine, docteur. Notre médecine était performante.
Oui, je crois.
Une dernière question.
Effectivement, cet excès de rationalisme a peut-être entraîné le corps médical à alimenter cette médecine spectacle. Parce que je me suis sentie interpellée en tant que malade. La justice, l'État font pression sur la médecine. Est-ce que ce n'est pas la médecine qui a d'abord cherché à être la plus compétitive possible? Est-ce qu'elle n'est pas devenue la plus technique possible, la plus rationnelle possible, aussi bien parce que effectivement dans les études il n'y avait pas de formation humaniste, que parce que beaucoup de médecins voulaient être le plus possible, le plus scientifique possible?
Oui, parce que je pense qu'il y a un moment donné où la médecine est ivre d'elle-même. Elle est ivre de ces. Il y a un moment où dépasser les limites donne le sentiment d'accéder à une autre humanité. Et que ce n'est pas parce qu'il y aura quelques Himalayas ou quelques Monts Blancs que, en fait, l'ensemble de la santé humaine s'améliore. Et je crois qu'il y a un moment où les exploits médicaux finissent par être trop fascinants. Alors qu'il devrait y avoir peut-être un jugement, sinon critique, mais peut-être plus distant. D'abord, parler de la société spectacle, je pense que la médecine y participe aussi.
Merci.